Mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui es venu ce matin prendre le temps d'écouter la parole de Dieu, renouveler tes forces physiques et spirituelles par le chant, la prière, rencontrer ton prochain au milieu de ton activité familiale, de ton travail, ou peut-être même de tes vacances, sois sans crainte. Le Seigneur est là, il t'appelle, il t'invite à l'écouter et à le recevoir ici et maintenant. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père, en son Fils Jésus le Christ et notre frère. Bienvenue à chacun et chacune pour ce temps de culte. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le site internet et qui sont en communion avec nous. Alors c'est encore un jour de fête pour notre Église, parce que nous avons la grande joie d'accueillir aujourd'hui Cathy et Damien, qui demandent le baptême pour leur troisième enfant, qui est venu agrandir leur famille. Chères familles, chers amis, soyez les bienvenus dans ce temple à l'Oratoire du Louvre, ainsi que tous les paroissiens fidèles ou les personnes de passage qui sont là peut-être pour la première fois. Et bienvenue à celles et ceux qui nous regardent de l'étranger par le biais du site internet. Pour nous accompagner ce matin, merci à Aurélien Peter qui est à l'orgue, et merci à, alors je ne vais pas bien prononcer, mais qu'elle veuille me pardonner, merci. Alors, Anne ? Non. Yun Mi Mahan qui chantera tout à l'heure. Et je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous sommes rassemblés dans ce lieu de prière et de communion. Permets que nous soyons une communauté de prière et de joie autour de celle qui va recevoir le signe de ta grâce. Envoie ton Esprit Saint sur chacun et chacune de nous, et notre foi fera grandir notre amour du prochain. Béni sois-tu pour ta présence fidèle. Amen. Nous ouvrons ce culte en prenant maintenant le premier répond qui se trouve au tout début du psautier français dans la liturgie et qui s'intitule « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Je vous invite à vous lever. Béni sois-tu, Sauveur des humains. Tu viens pour nous ouvrir les cieux, et dans ta lumière, tu nous fais une place pour accueillir ta nouveauté. Béni sois-tu, Sauveur des humains. Tu viens ôter de nos cœurs le voile. Par ta vie donnée, tu chasses l'obscurité, tu exerces nos regards à la foi. Béni sois-tu, Sauveur des humains. Tu viens murmurer à nos oreilles une parole de commencement. Notre esprit tressaille à ta sagesse en faisant l'apprentissage de ton nom. Béni sois-tu, Sauveur des humains. Tu viens féconder notre histoire en faisant corps avec nos fragilités. Ton amour s'élargit aux dimensions du monde. Il est temps de faire route vers toi. Amen. Nous prenons maintenant le chant du psaume 136. Psaume 136. De ce psaume, nous chanterons les strophes 1, 3, 8, 9 et 10. Psaume 136, Louez Dieu, car il est bon. Prenez place. Rappelons-nous ce que Dieu attend de nous. Des gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu'il leur imposât les mains en disant une prière, mais les disciples les rabrouèrent. Jésus dit: laissez faire ces enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est comme ceux qui sont comme eux. Unissons-nous dans la prière de repentance. Seigneur, les jours où tout est dur, donne-nous le courage de continuer. Les jours où tout semble compliqué, donne-nous la simplicité de te demander ton aide. Les jours où nous sommes dans l'impasse, donne-nous la force d'inventer des chemins. Qu'au milieu des difficultés, nous sachions voir les belles choses, les bonnes volontés et les solutions les plus improbables, mais les plus justes. Il n'était écrit nulle part que ce serait facile de vivre, Seigneur. Mais partout, il est écrit que tu nous ne laisses jamais tomber, nous tes enfants bien-aimés. Grâce te soit rendue. Amen. Pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il ne fait jamais trop sombre pour Dieu. Nul n'est jamais perdu pour Dieu. Rien ni personne ne prendra jamais notre place en sa maison. Il nous attend, il nous attendra encore le temps qu'il faudra. Cette fois, nous savons où aller, nous mettrons nos pas dans ceux du ressuscité. Et déjà, la fête commence, elle durera pour l'éternité. Car c'est moi, dit Dieu, c'est moi qui vous réconforte, afin que votre joie soit parfaite. Je vous donne mon esprit, je vous donne mon souffle. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Prenez place. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, dans notre Église, on peut demander le baptême à tout âge. Cathy et Damien ont demandé le baptême pour leur fille. Alors je demanderai donc aux parents, parrains, marraines, mais également à vos deux filles aînées de s'approcher des fonts baptismaux. On m'annonce que la marraine n'est pas encore arrivée, mais ça ne saurait tarder. On demandera à l'épouse du parrain de faire office de marraine si jamais il y a besoin. Et puis de toute façon, toute l'assemblée est là pour être témoin de ce baptême, donc cet enfant ne manquera pas de marraine, ni de parrain. Chers amis, l'Église aujourd'hui accueille votre désir avec joie. Elle obéit ainsi à la volonté de Jésus-Christ qui a dit à ses disciples « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous croyons que cela est vrai pour chacun, chacune, petit ou grand, et même pour ceux qui ne le savent pas encore. En effet, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Nous avons préparé ce culte ensemble. Et nous allons chanter un cantique que vous allez prendre maintenant dans le recueil Louanges et prières au numéro 101. Nous chanterons les strophes 1 et 3 de ce cantique qui s'intitule « Au peuple fidèle ». Et je vous invite à vous lever. J'invite l'Assemblée à rester debout pour être témoin de ce baptême. Alors, mes amis, veuillez vous approcher et dites-moi, quel prénom avez-vous donné à votre enfant ?
Agathe.
Parole est vraie.
Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque ait la vie, croit en lui et ait la vie éternelle. Amen. J'invite l'Assemblée à s'asseoir pour écouter maintenant les témoignages des parents, parrains, marraines.
Ma chère Agathe, ma dernière née, ma fille bien-aimée, tu es née les yeux grands ouverts, lucide, brillante et combative. Cela fait déjà un an que tu illumines nos vies, pourtant traversées d'averses, de doutes, d'épreuves, mais toujours pleines d'espérance. Avec toi, nous avons redécouvert la foi, cette ferme assurance des choses qu'on espère, dont parle l'apôtre Paul. C'est devenu notre credo quotidien. Le miracle de ta naissance nous a fédérés en tant que famille, nous a rendus meilleurs les uns avec les autres, les uns pour les autres. Tes sœurs ont grandi et embelli à ta vue. Ma chère Agathe, tu es la personne la plus forte que je connaisse, car tu navigues entre les difficultés, sans gémir, avec détermination, et tu fais la joie des tiens. Je ne sais pas vraiment ce que l'on va t'apprendre, car c'est toi qui dessines ton chemin, et nous l'empruntons volontiers, car il est fait de vie, de tendresse, de rire, de chute et de victoire. Aujourd'hui, c'est ton baptême, ici, à l'oratoire, là où ton papa et ta maman ont trouvé un juste équilibre dans leur foi, là où tes sœurs avant toi ont été baptisées. Là où l'on sait que tu trouveras toujours une place et une oreille attentive. Ce baptême, c'est ton entrée dans la famille chrétienne. En famille, on se dispute. En famille, on se réconcilie surtout. En famille, on se soutient, on se surpasse, on évolue beaucoup. En famille, on se donne, on pardonne. Je sais que tu trouveras dans cette grande et belle famille chrétienne des âmes généreuses et ouvertes pour te conseiller, te porter dans les projets que tu poursuivras ta vie durant. Ma chère Agathe, grande et gracieuse, bienvenue chez toi. Tu as tant de belles choses à découvrir. Ici débute un parcours spirituel que je te souhaite riche et formateur, comme il a été pour moi. La vie, tu vois, ce n'est pas le soleil qui brille en permanence, mais c'est le calme en pleine tempête, car tu sais déjà que tu ne crains rien. Car Dieu est avec toi, l'inquiétude disparaîtra. Tu seras secourue, fortifiée et triomphante au temps venu. Belle route à toi, ma chère Agathe, ta famille veille sur toi.
Ma chère et précieuse Agathe, ton arrivée parmi nous a été une bénédiction. Elle nous a réjouis et émerveillés. Il y a bien eu des préoccupations et des incertitudes, mais les premiers mots du médecin ont loué ta bravoure. Nous avons choisi de te faire confiance et tu nous as mille fois montré que nous avions raison. Quelles que soient nos situations, nos chances et malheurs, pour les premiers autant que pour les derniers, pour les ouvriers de la première comme ceux pour de la dernière heure, l'amour de Dieu t'est donné, sans réserve et pour toujours. Nous te proposerons aujourd'hui cette communauté spirituelle de l'oratoire et de la foi chrétienne, comme nous avions choisi de le faire pour tes deux sœurs Iris et Sophie. Pourvu que, dans les moments de doute, de questionnement ou de peine, ce cheminement est celui que tu choisiras toi-même par la suite, t'apporte la foi, la confiance et l'espérance en Dieu et en les hommes.
Ma chère Agathe, tu as déjà bien grandi, 1 an et quelques mois. Tu as traversé des épreuves, si dures soient-elles. Je souhaitais te dire quelques mots pour exprimer à quel point je suis fière de toi. Je suis tellement heureuse que tu sois baptisée devant notre communauté protestante de l'oratoire si accueillante. Elle sera à tes côtés pour toute ta vie. Sois une enfant heureuse et profite un maximum de ta jeunesse. Sophie et moi, tes deux sœurs, seront toujours là pour moi, pour toi. Tu peux compter sur nous.
Chère Agathe, toi qui as posé les yeux sur le monde plus jeune que nous tous, longtemps j'ai pensé que lorsqu'il s'agit de croissance, en particulier de croissance intérieure, d'éducation, d'apprentissage, le temps est incompressible. Je le pense encore, et dans bien des domaines, mes efforts pour l'accélérer se sont heurtés à des limites pour moi bien mystérieuses. Jusqu'à comprendre que les clés de l'apprentissage sont pour beaucoup au fond de nous-mêmes et relève de la connaissance de soi. Apprendre, c'est aussi se comprendre, savoir quelle étincelle de vie nous anime, quels en sont les mécanismes et les limites. Mais grandir, c'est aussi un peu suivre les pas des autres, surtout durant les premiers mois, comparer des courbes, les normes de taille, de poids. C'est aussi grandir ensemble, en famille, croiser le chemin des autres, le quitter parfois, puis le reprendre. C'est adapter le rythme de ses pas sur celui qui résonne à nos côtés. Grandir, ça n'est pas qu'une chose individuelle, mais aussi collective. Grandir, c'est être accompagné. Chère Agathe, tu arrives dans une famille pleine de joie, de convictions et de questions aussi. Une famille chargée de culture, d'horizon, où spiritualité rime avec simplicité. Quel terreau plus riche pour grandir. Aujourd'hui, je suis honoré de compléter cet entourage, dorénavant en qualité de parrain et d'oncle. Je m'engage, avec tout le bonheur du monde, à t'accompagner sur ce chemin de sérénité et de spiritualité qui nous voit grandir chaque jour, chacun à notre vitesse. Je serai disponible pour te soutenir et t'apporter une oreille ou une voix qui te permette de te découvrir un peu plus toi-même et le monde qui t'entoure dans le respect et la foi chrétienne, celle-là même qui fait grandir en harmonie le fond de nos cœurs avec la vérité de nos actes.
La marraine n'est pas arrivée. Bon, ça ne fait rien. Nous l'associons de toute façon par la prière à ce baptême d'Agathe. Alors maintenant, je vais inviter donc Agathe à aller dans les rangs avec ses parents, avec sa maman. Et nous présentons Agathe. Mais juste avant, je voudrais simplement inviter l'assemblée à se lever pour chanter le cantique 204, la strophe 1.
amis, frères et sœurs, voici donc Agathe. Elle est ici chez elle et vous êtes sa famille spirituelle. Vous prierez pour elle et pour sa famille. Aucune contrainte ne la retiendra dans la communauté chrétienne. Mais si elle venait à s'en séparer, vous affirmerez qu'elle peut toujours y retrouver sa place. Vous serez pour elle les témoins de l'amour de Dieu. Dites avec moi que Dieu nous soit en aide. Que Dieu nous soit en aide. Et nous chantons la strophe 2 du cantique 204. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, d'éternité en éternité. Nous lirons aujourd'hui un extrait de l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, les versets 1 à 16. Le royaume des cieux est comparable en effet à un maître de maison qui sortit de grand matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'une pièce d'argent pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la troisième heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur la place, sans travail, et il leur dit « Allez vous aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Sorti de nouveau vers la sixième heure, puis vers la neuvième, il fit de même. Vers la onzième heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là et leur dit « Pourquoi êtes-vous restés là tout le jour sans travail ?»« C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés. » Il leur dit « Allez vous aussi à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et remets à chacun son salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux de la onzième heure vinrent donc et reçurent chacun une pièce d'argent. Les premiers, venant à leur tour, pensèrent qu'ils allaient recevoir davantage. Mais ils reçurent eux aussi, chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmuraient contre le maître de maison. « Ces derniers venus, disaient-ils, n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites comme nous, qui avons supporté le poids du jour et la grosse chaleur. » Mais il répliqua à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'une pièce d'argent? Emporte ce qui est à toi et va-t'en, je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien? Ou alors, ton œil est-il mauvais parce que je suis bon. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront derniers. Alors, vous avez certainement reçu un cantique sur une petite feuille qui s'intitule « Quand le vol de la tempête ». Je vais vous inviter à le prendre et nous chanterons les strophes 1 et 4. Je vous invite à vous lever. Prions ensemble. Éternel, quand nous risquons une parole, que nous puisions à ta source. Quand nous risquons une parole, qu'elle nous relie à l'unité de ceux qui te prient. Quand nous risquons une parole, qu'elle s'élève en louange comme un souffle d'espérance. Quand nous risquons une parole, qu'elle soit parole de vie. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, chers parents, parrains et marraines, bienvenue. Si je faisais un sondage ici et maintenant sur ce que vous pensez en ayant entendu cette histoire, je fais le pari que c'est le mot d'injustice qui l'emporterait. Oui, à première vue, cette histoire est injuste, parce qu'elle va à l'encontre de notre logique rationnelle, de notre organisation du travail. Finalement, cette histoire réveille en nous le petit fond du syndicaliste qui s'ignore. Comment les ouvriers embauchés à la dernière heure sont payés pareil que ceux qui ont travaillé depuis le matin ? Mais ce sont ceux qui ont travaillé toute la journée qui sont lésés, que dis-je ? C'est le travail même qui est dévalorisé. Autant venir tous à la dernière heure. Finalement, cela fera de la fatigue en moins. Mes amis, j'ai entendu ces réflexions maintes fois, chaque fois que j'ai entrepris d'étudier cette parabole de Jésus. La parabole est un procédé narratif utilisé dans le judaïsme pour faire comprendre les situations du quotidien. La parabole, c'est une histoire qui permet de mieux saisir ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Et cela nécessite parfois de passer par des détours insoupçonnés. Et quand elle semble irrecevable, alors il faut la transposer. L'histoire qui nous est transmise ce matin par l'évangile de Matthieu et qui a été choisie par les parents d'Agathe se situe dans un contexte bien précis. Nous nous acheminons vers la fin de l'évangile. Jésus monte à Jérusalem où il sera arrêté et condamné. Et Matthieu écrit son évangile pour les Juifs de son époque. Il s'adresse à des judéo-chrétiens, juifs nouvellement convertis au message de Jésus, mais qui restent fidèles de façon plus ou moins radicale à la loi de Moïse. On peut comprendre alors que ce sont eux les ouvriers de la première heure de cette parabole, ceux qui ne ménagent pas leur peine pour être des témoins crédibles. Mais dans le même temps, il y a ces nouveaux convertis au Christ qui viennent du monde païen, les pagano-chrétiens, qui viennent donc hors du monde juif. Et ce sont des personnes qui n'ont pas la même tradition, ni la même culture, ni la même éducation, et qui ne sont pas attachées à la loi juive. Et pourtant, ils sont accueillis comme nouveaux chrétiens autant que les juifs. Ce sont eux les ouvriers, peut-être, de la 11e heure. Et ils sont accueillis dans la Nouvelle Alliance sans distinction des autres, même des plus vénérables. Et pour beaucoup, cette situation était un vrai scandale et une souffrance. La souffrance de la comparaison et de la jalousie exacerbée ici par ce petit détail du texte. Le maître rémunère en premier ceux qui ont été embauchés les derniers. Alors ceux qui ont travaillé à la vigne du Seigneur ne se sentent pas récompensés comme ils le souhaitent, alors qu'ils ont fait la majeure partie du travail, alors qu'ils ont souffert de la chaleur, ils ne reçoivent rien de plus que ce qui a été convenu. Eux qui, peut-être, ont eu la faiblesse secrète de rêver de recevoir tout de même un peu plus. Cette parabole est irritante. Elle fait la part belle aux derniers venus, mais aussi aux laissés pour compte. Et dans l'histoire, on remarque l'insistance du maître de la vigne à aller chercher les ouvriers tout le temps et jusqu'à la dernière heure. On peut imaginer l'exaspération que devaient ressentir les pharisiens et les scribes lorsqu'ils entendaient l'enseignement de Jésus, lorsqu'ils voyaient l'accueil qu'il réservait aux personnes de mauvaise vie. Aux collecteurs d'impôts, comme Zachée, aux femmes adultères ou hémorragiques,
aux handicapés et aux exclus de toutes sortes. Les prostituées et les collecteurs d'impôts vous précéderont dans le royaume de Dieu. Contre toute attente, quand Jésus sera entré à Jérusalem, au chapitre suivant, il prendra les deux catégories de personnes les plus méprisées selon la loi pour en faire l'éloge devant les grands prêtres et les anciens. Et Jésus persévérera jusqu'au dernier jour, au dernier moment, en disant à l'homme crucifié en même temps que lui à Golgotha, que l'Évangile retiendra comme étant le bon larron, tu seras aujourd'hui même avec moi dans le paradis. Telle est la bonne nouvelle. Tel est l'Évangile, l'Évangile du renversement. Là où certains se sentent légitimement les premiers à cause de l'histoire, de l'âge, de l'ancienneté, de l'engagement, il est annoncé qu'ils seront les derniers. Mais le vrai renversement, c'est que tous ceux qui s'étaient résignés à être à la dernière place, quelle qu'en soit la raison, se trouvent promus au premier rang. Et ce renversement est déjà annoncé dans l'enseignement de Jésus. Qu'on se rappelle, le grain de moutarde devient le plus grand arbre du royaume. 5 pains et 2 poissons nourrissent une foule innombrable. Un petit enfant devient la plus grande personne du royaume. Un verre d'eau au bord d'un puits devient le plus grand critère d'amour. Un pêcheur de lac devient un témoin connu du monde entier. Et même un prophète assis sur un âne devient un crucifié reconnu comme fils de Dieu par un centurion romain. Tous ces exemples sont là pour nous faire réfléchir, pour savoir où nous en sommes, nous aussi. Et comme l'écrit Marion Muller-Collard, je cite, « Je vous souhaite d'être un peu dérangé, ou tout du moins, je vous souhaite le petit inconfort, la pointe d'impatience, le frémissement qu'il faut pour reprendre la route millénaire qui étire la patte humaine et la révèle à elle-même. » Fin de citation. La parabole nous parle bien d'autre chose que la simple rémunération des ouvriers par rapport à leur temps de travail. Tous les personnages ont une signification et le maître de la vigne représente Dieu. La parabole parle de la caractéristique première de Dieu qui n'est pas de rendre à chacun selon ses mérites, mais plutôt de donner à chacun ce dont il a besoin pour vivre. Bien sûr, la logique maniaque aurait voulu que les derniers ne reçoivent que quelques centimes. Mais ce serait tout à fait juste du point de vue humain, mais ils n'auraient pas eu de quoi vivre, tout simplement. Or, la caractéristique de ce maître, c'est d'être bon. Et à cause de sa bonté, la justice prend un nouveau visage. La justice du maître de la vigne ou la justice de Dieu ne consiste pas à donner selon le rendement de la personne, mais selon ses besoins. Et c'est pour cela que les derniers ouvriers sont rémunérés autant que les premiers. Pour qu'ils puissent se nourrir et nourrir aussi les autres, autant que ceux qui ont travaillé depuis le début de la journée. Au sens propre de la parabole, comme au sens figuré de nos existences. Chers amis, Agathe est la dernière née de votre famille. Elle est évidemment la plus petite, mais étant donné sa propre histoire, on peut le vérifier, elle est habitée par une force et une vitalité qui redynamisent votre foi et votre vie. Comme vous l'avez si bien exprimé tout à l'heure dans vos témoignages. Elle est pour nous aussi la dernière arrivée dans notre famille spirituelle, mais sa présence dans l'Église contribuera d'une façon ou d'une autre au renouvellement de notre propre témoignage, et elle le fait déjà, toute petite soit-elle. Cette parabole s'adresse à nous aujourd'hui et nous pouvons décliner tous les personnages de la parabole par rapport à nous-mêmes et à notre entourage. Ouvriers de la première heure en église, nous le sommes sûrement. Fidèles et consciencieux, nous le sommes aussi. Garants de la loi, de l'histoire de nos bâtiments ou dépositaires de la parole, propriétaires d'une tradition et d'une liturgie, défenseurs de notre identité, nous le sommes. Mais comment accueillons-nous les croyants de la dernière heure qui arrivent tout frais avec leurs idées toutes neuves qui viennent bousculer nos habitudes et qui s'interrogent sur nos façons de faire? Sur un autre plan, peut-être faisons-nous le constat de cette parole avec un grand P, que j'appelle moi parole de confiance, qui ne nous touche plus comme avant, à cause des aléas de la vie ou de ses déceptions ou des épreuves que nous subissons. Pourtant, nous l'avons reçue dans notre jeunesse. Comment réagissons-nous lorsque nous entendons des confessions de foi, que ce soit au baptême ou à certaines confirmations, qui nous disent avec une spontanéité et une fraîcheur liées à notre contexte d'aujourd'hui les mots que nous aurions tant aimé prononcer? Autre chose, il y a bien sûr cette vigne à s'occuper, mais personne n'en a le courage. Nous ressemblons alors aux ouvriers qui sont restés sur la place sans être embauchés. Et puis, un jour, inattendu, Dieu fait appel à nous par l'intermédiaire d'hommes et de femmes qui ont pensé à nous pour tel ou tel engagement, telle ou telle présence, telle ou telle urgence à cause de nos compétences humaine, intellectuelle, notre savoir-faire et qui va servir au plus grand nombre. Alors qu'on ne s'y attendait plus, nous voilà embauchés dans la vigne, autrement dit embauchés pour travailler dans le monde au plus près des besoins de celles et ceux qui nous entourent. Travailler à la vigne du Seigneur, c'est une image très ancienne dans la Bible. C'est travailler à notre témoignage, c'est participer à la construction d'une société plus fraternelle et plus juste, c'est être artisan de paix, de réconciliation, créateur d'unité et transmetteur de la parole de Dieu et de la bonté de Dieu. Nous ne savons pas toujours comment faire, mais l'essentiel de l'histoire d'aujourd'hui, c'est de répondre à l'appel, pour être mis au service des uns et des autres, et non pour se servir. Et le reste nous sera donné, exactement comme la pièce d'argent a été donnée au dernier comme au premier ouvrier de la vigne. Et la pièce d'argent, au fond, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est l'amour de Dieu non compartimenté, et donc indivisible. C'est aussi sa grâce que l'on peut traduire de cette façon. L'autre, y compris le pire ou le moins aimable, est aimé de Dieu autant que je le suis. Mes amis, merci d'avoir choisi de nous faire méditer sur cette parabole pour le baptême de votre fille. Et que cette histoire nous rejoigne là où nous en sommes, ici. Et maintenant, puissions-nous entendre l'invitation du Dieu de Jésus-Christ à travailler à sa vigne et d'y répondre avec empressement. Quelle que soit l'heure de notre vie où sa parole nous touche, si elle nous touche encore aujourd'hui, alors nous serons heureux d'être les ouvriers embauchés, donc de nouveau aimés à la dernière heure, comme nous l'avons été à la première, dès la première heure. Puissions-nous aussi nous réjouir du travail qui a été fait avant nous, indépendamment de nous. Et surtout, puissions-nous nous réjouir sans arrière-pensée, de la présence de Dieu en chacun de nos frères et de nos sœurs, où qu'ils soient, quelle que soit leur origine, leur chemin de vie, leur spiritualité, leur mode de vie. Puissions-nous encore et toujours recevoir l'amour de Dieu pour nous-mêmes sans nous sentir jaloux de ce que les autres reçoivent aussi. Car c'est tous ensemble que nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit, comme dit le psaume. Et Dieu a besoin de chacun et chacune de nous dans l'immensité de sa vigne. Chacun, chacune y a sa place pour Dieu, et en particulier le Dieu de la foi de Jésus-Christ. Il n'y a au fond ni premier ni dernier. Nous sommes tous à égalité au bénéfice de son abondance et de ses largesses pour que nos vies soient nourries durablement jusqu'au dernier jour. Il nous faut sans cesse apprendre à être ouverts et réceptifs pour se sentir accueillis et même aimés par quelqu'un que nous pensions bien connaître selon notre logique humaine. Et là, je cite Lita Bassé dans son livre « Aimer sans dévorer » et qu'au fond, nous ne connaissons absolument pas. Et il reste toujours de l'ordre, de l'inattendu. Et sa parole est là, fidèle, non pour nous sécuriser, mais pour nous dérouter, nous bousculer. Et ce faisant, elle nous fait réagir. Ainsi, nous ne resterons pas prisonniers de nos certitudes. Certes, cette parole nous plonge dans un inconfort, mais elle est toujours prometteuse d'une vie nouvelle. La parole est là pour nous signaler que nous sommes en vie, tout simplement, et il n'est jamais trop tard pour en prendre conscience. Amen.
Pour exprimer le prolongement de notre gratitude pour ce chant, je vous invite à vous lever. Et nous prendrons maintenant le cantique numéro 250 dans les recueils Louanges et Prières. Nous chanterons les strophes 1, 3 et 4. Prenez place.
Bonjour à tous. Merci Agnès. Merci Yunmin Han pour cette Amazing Grace et à Aurélien. Le refrain, c'est « J'étais aveugle et à présent je vois ». Donc c'est un rappel de ce que tu viens de nous dire. Jamais trop tard, il faut en être conscient. On peut toujours bien faire, c'est ça. Voilà. L'Oratoire du Louvre aime la musique, vous l'avez vu à l'instant, fait tout pour promouvoir la musique. Donc en février dernier, Sarah Kim reçoit notre organiste co-titulaire un email en février dernier, d'un des collègues de Potsdam, côté de Berlin, de la Nikolaiskirche, disant il faudrait faire quelque chose pour la reconstruction des orgues de Nantes qui ont brûlé en 2020. Alors pourquoi Potsdam appelle tous les organistes européens à faire un concert au profit des grandes orgues de Nantes? C'est parce que Michel Boursier, qui était et qui est l'organiste de Nantes, était en concert à Nikolaiskirche. Donc il a été décidé par un certain nombre d'organistes européens de essayer de lever des fonds pour Nantes. Donc quand Sarah Kim nous a forwardé, fait suivre cet email, bien entendu l'Oratoire du Louvre a répondu oui. Elle a également contacté pour avoir le temple, elle a également contacté son homologue David Cassan. Donc nous avons à quatre mains et à deux orgues ce vendredi 8 juillet David Cassan et Sarah Kim donnant un concert ici même, au profit des grandes orgues de Nantes. Donc venez très nombreux, s'il vous plaît. L'orgue de Nantes, les grandes orgues de Nantes ont brûlé en juillet 2020. Ce concert a mis très longtemps à se faire dans toute l'Europe. Vous en avez dans toutes les églises, grandes églises européennes, entre le 5 juin et mi-juillet. Donc on en fait partie, on fait partie de ce catalogue, j'allais dire, d'églises solidaires. Ce 8 juillet à 20h, ça sera au chapeau, c'est gratuit, mais soyez généreux et nous reverserons cet argent aux grandes orgues de Nantes. Également, vous savez que donc, l'Oratoire aime la musique est solidaire dans ce cadre-là. Également, tous les premiers dimanches de l'entraide, la collecte va tous les premiers dimanches du mois, pardon, la collecte va à l'association de l'entraide de l'Oratoire du Louvre. J'ai des bonnes nouvelles. Enfin, j'ai eu leur président hier matin au téléphone, Gilles Devaux, vous savez, qui est alité depuis plusieurs mois, qui a eu un gros problème de dos. Il sera de retour parmi nous dimanche prochain. Donc soyez aussi nombreux pour l'accueillir, parce qu'il a vraiment, vraiment ce qu'on appelle dégusté pendant des mois entiers. Et il revient donc à l'Oratoire du Louvre dimanche prochain. Vous avez aujourd'hui nombre des conseillers de l'entraide qui sont également là. Donc soyez généreux pour cette association de l'entraide. Le don est également joyeux pour l'entraide, n'est-ce pas ? Bon dimanche à tous. Merci. Juste pour terminer sur la partie solidaire, n'oubliez jamais que le dimanche en venant, vous pouvez, ou même également le jeudi, ça me fera l'enchaînement, poser vos produits d'hygiène. Si vous avez des produits d'hygiène et de santé, surtout posez-les à l'entrée, parce que les personnes en difficulté ont vraiment besoin de ce genre de produits. Également, du coup, le jeudi, c'est ouvert, parce que bien entendu, tout l'été, y compris le 14 juillet, nous l'avons mis par écrit, nos deux pasteurs assurent la pause spirituelle. Tous les jeudis également.
Merci beaucoup, Aurore. Je voudrais maintenant céder la parole à la marraine d'Agathe qui est arrivée et qui souhaite partager son témoignage en faveur de sa filleule. Venez, Wanda.
Prenez votre temps, tout va bien.
Ok. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par dire quelques mots sur comment j'ai rencontré les parents d'Agathe. Ok, je rapproche un petit peu le micro. J'ai rencontré Cathy, donc la mère d'Agathe, il y a plus de 20 ans à l'Université de Nanterre, où nous avons fait des études de sociologie. Je ne me souviens pas ce qui nous a rapprochés, mais nous sommes devenus amis, de bons amis. J'ai rencontré ses amis et elle a rencontré les miens. Quand elle a connu Damien, j'ai fait sa connaissance aussi. Nous avons fini nos études et la vie a fait son chemin. Notre amitié a évolué et maintenant, 20 ans plus tard, nous sommes presque comme une famille. Et je pense que d'être la marraine d'Agathe, ça va encore enrichir les relations entre nos deux familles. Agathe, je suis honorée d'être ta marraine et d'avoir ce rôle particulier dans ta vie, celui de soutenir tes parents en participant à ton éducation. Il y a un verset biblique que j'aimerais partager. Je trouve qu'il illustre parfaitement notre responsabilité parentale envers nos enfants. Proverbe 29, 17. Corrige ton enfant et il te mettra en repos et il donnera du plaisir à ton âme. Selon la version de la Bible, corriger est également traduit comme instruire ou discipliner. Je trouve que ce verset est riche de sens et que sa signification est universelle. Quelles que soient les croyances religieuses ou spirituelles, c'est un principe commun que l'on trouve souvent dès que l'on prodigue des conseils aux parents. Dans les articles de magazines, les émissions de la télévision, les livres, etc. Si on éduque nos enfants et si on leur montre le chemin, ils nous donneront de la paix et nous apporteront de la joie. Agathe, je me réjouis de faire partie de ta vie avec ses hauts et ses bas et ses imprévus. En tant que marraine, je suis là pour t'écouter, te comprendre, te guider et te conseiller. Je sais que tu vas aussi m'apprendre des choses. C'est une voie à double sens. Et ce jour de ton baptême, je souhaite partager ces quelques mots du grand livre en guise de bénédiction. Psaume 121, 5 à 8. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais.
Merci. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Unissons-nous dans la prière, les uns pour les autres. Éternel Dieu de la vie, nous voici tels que nous sommes et nous te présentons la vérité de nos vies personnelles. Apprends-nous à nous contenter de discerner ton esprit dans le souffle qui nous pousse à croire, à espérer, à aimer encore. Et encore. Apprends-nous à nous contenter de discerner ton esprit dans la respiration difficile de ton Église essoufflée, qui t'aime et te sert encore et encore. Apprends-nous à entendre ton souffle dans les petits événements, sans que nous ne désespérions jamais d'en voir de plus grands. Éternel Dieu de la vie, nous te disons notre joie profonde pour le baptême d'Agathe. Nous te confions ses parents, ses deux sœurs, son parrain, sa marraine et l'ensemble de sa famille, charnelle et spirituelle. Nous te rendons grâce pour ta parole qui nous rejoint là où nous en sommes. Elle provoque en nous un changement tel que nous en sommes renversés et que de dernier, que bien souvent nous croyons être. Nous voici tous promus au premier rang de la vie grâce à ton amour. Merci pour ce renversement qui nous gratifie chacun pour notre part. Éternel Dieu de la vie, tu es toujours là pour éclairer le chemin de chacun, pour lui éviter de dévier, pour l'aider à rester ouvert à la nouveauté, à rester bienveillant à tout ce qui peut surprendre et même agacer ou irriter. Nous remettons à ta grâce et à ton amour la semaine qui s'ouvre, avec tout d'abord cette journée de repos, la rencontre avec notre famille, les retrouvailles avec nos amis et ce culte que nous partageons. Nous remettons celles et ceux qui prennent un temps de vacances, qu'ils puissent se reposer en toute quiétude et ainsi se décharger de ce qui est lourd à porter. Nous remettons à ta grâce et à ton amour les jours prochains chargés d'engagements divers. Guide nos échanges et assure de ta bienveillance les regards que nous portons les uns sur les autres. Bénis l'ensemble de nos relations fraternelles et qu'elles soient en tout temps le signe de la communion de ton Église, au témoignage de l'Évangile, au service de notre prochain. Nous te confions celles et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, quelle qu'en soit la raison. Nous te prions celles et ceux qui sont actuellement dans le deuil. Et nous te présentons celles et ceux qui viennent de confier leur bénédiction de mariage à ton amour. Et nous te confions celles et ceux qui ont demandé le secours de notre prière. Nous te les nommons dans le profond de nos cœurs. Nous te présentons encore celles et ceux qui, dans le monde, proclament ta parole au risque de leur vie. Et nous t'en prions. Sois aussi avec toute l'Église universelle, visible et invisible, en particulier celles et ceux qui souffrent des conflits et de la guerre, et permets que nous sachions leur témoigner notre solidarité et notre amour. En communion avec tous les frères et sœurs chrétiens, mais aussi en communion avec tous les frères et sœurs en humanité, avec celles et ceux qui vivent leur foi autrement que nous, nous te disons maintenant cette prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous restons debout pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. L'Esprit de Dieu, c'est ce que nous pouvons sentir comme une force et une joie, comme une réponse et une lumière, comme une présence apaisante. Dans nos temps de lassitude et de découragement, il est ce qui nous pousse à reprendre comme malgré nous les mêmes combats, et il est cette volonté d'aimer encore, et ce malgré, c'est le souffle. Amis, frères et sœurs, Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce, Il tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Qu'il vous remplisse de tout son souffle. Allez dans la paix de votre Seigneur. Amen. Et en conclusion de ce culte, nous chanterons le cantique numéro 150, que je ne présente plus, et nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je voudrais vous souhaiter un heureux dimanche, un beau dimanche, comme on dit. Je crois que c'est le moment d'applaudir nos musiciens, nos deux musiciens, et d'accueillir Agathe dans la communauté chrétienne.